la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bonjour chers lecteurs et chères lectrices, bienvenue dans votre émission littéraire en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère, un livre sur le zinc. Après avoir évoqué la littérature plan-plan du 19e siècle, nous allons aujourd'hui nous rebeller, nous allons parler d'acné, de mobilette, de junk food et d'appareils dentaires. Oui, nous allons parler d'adolescence, cette belle période de la vie où la puberté est synonyme de rébellion, où le non l'emporte sur le oui, où le oui ne l'emporte sur rien. Ah, petite tête blonde nihiliste, cette émission est pour vous. Oh, je sais, ce n'est pas un portrait flatteur que je dresse ici, mais flûte, vous êtes trop naze, de toute façon, je ferai ce que j'ai envie de faire, les boomers, ok, chier. Pourtant, l'adolescence n'est pas qu'acné, mobilette, junk food et appareils dentaires, et nous allons le voir dans cette émission avec celle qui est restée une grande adolescente. Valérie, salut.
Salut.
Claire, qui est tombée petite dans l'élixir de jouvence, salut Claire.
Coucou.
Pauline, qui est tombée petite dans le cidre breton, salut Pauline.
Salut tout le monde.
Marlène, qui est... Marlène, salut Marlène. Ouh, comment ça va?
Salut.
Alors, même alors que Claire t'es oubliée, tu trouves quand même des livres et tu es là, adolescente.
Oh, tu le dis à la radio.
Tu aurais pu bouder et tu aurais refusé de venir à l'émission.
C'est ça.
Mais là, tu n'es plus adolescente, tant que tu es avec nous, tant mieux. Allez, trêve de baliverne, je fais le rêve que les adolescents vivent dans un monde où ils aient leur mot à dire. Je fais le rêve que tous les adolescents connaissent Martin Luther King. I have a dream, et oui, c'est moi qui vais commencer par présenter cette émission. I have a dream, Martin Luther King, de Kadir Nelson, des dessins de Kadir Nelson. Merci, Pauline, pour m'avoir prêté ce livre, un livre pour éclairer les adolescents sur qui était Martin Luther King, avec une partie de son célèbre discours qu'il a prononcé, on s'en souvient tous, le 28 août 1963 à Washington, sur les marches du Mémorial Lincoln. Alors, c'est l'illustrateur Kadir Nelson qui illustre les passages les plus emblématiques du discours. Il n'y a pas tout le discours. Par contre, on peut le retrouver en entier à la fin de l'ouvrage. Donc, je vais vous parler, bien sûr, tout le monde connaît ce discours, sa portée, son objectif, ses buts, ce qu'il dit. Je vais vous parler donc de Kadir Nelson, plutôt, qui est un peintre illustrateur qui est basé à Los Angeles et qui est surtout connu pour ses peintures, souvent présentées sur le magazine The New Yorker. Et il a fait d'ailleurs des couvertures d'albums également de Michael Jackson, de Drake et d'autres grands artistes. Son travail est axé sur la culture et l'histoire afro-américaine. Il a publié de nombreux ouvrages pour enfants, tous récompensés. Donc c'est de l'huile, des peintures, hein, c'est des tableaux. On le voit un peu quand on regarde... précisément un peu, on voit le grain des tableaux qui ressort, donc je pense que c'est de l'huile. Et c'est surtout un bel ouvrage, voilà, comme je l'ai dit en introduction, pour les enfants, pour connaître ce formidable personnage qui est Martin Luther King, un personnage qui résonne encore aujourd'hui et vu de l'actualité encore plus. Voilà.
Alors, tu dis pour les enfants, moi je l'ai mis dans la sélection ado. En
oui, fait, pour les ados, je parle d'enfants, mais c'est ado, excuse-moi.
Je le lis notamment en lecture à voix haute, comme les lectures qu'on fait aux enfants. Moi, j'en fais souvent aux ados, et les albums marchent vachement bien pour ça. C'est vrai qu'ils y vont pas de même, mais si on les ouvre, qu'on leur lit et qu'on leur montre, ils y vont derrière. Et ça marche très très bien, vraiment, pour les jeunes ados... ça marche très bien.
Du coup, tu as d'autres livres sur Martin Luther King, après qu'ils aient lu ces passages de discours, pour qu'ils aillent un peu plus en profondeur sur le personnage?
Oui, je dois en avoir deux, trois. Ouais, mais après, c'est plus dense. S'ils veulent approfondir, c'est de la biographie, voilà, c'est un peu plus dense. Là, c'est vraiment un premier pas. Bon, là, c'était le thème de la... C'était la culture américaine, mais voilà, c'est un premier pas, et ces lectures à voix haute, ça marche très bien pour des découvertes comme ça, même chez les ados.
Voilà, la médiathèque départementale de Lozère, hein, pourrait lire ce livre aussi, à des ados.
On doit l'avoir.
Oui. Vous devez l'avoir. Voilà, et donc il y a le discours en entier à la fin qui est beaucoup plus long, hein, bien entendu, de Martin Luther King. C'est la maison d'édition Stenkiss, c'est ça? Je ne connais pas.
Moi non plus.
Non,
non
personne.
Plus. Non.
Mais voilà. Grâce à cette émission, on connaîtra cette maison d'édition. On va rester à parler de lutte pour l'égalité avec Pauline. Voilà, vu que tu as pris la parole, ben je te la laisse. Qui va nous présenter Alma, le tome 1, Le vent se lève, de Timothée de Fombelle. Un premier volet passionnant d'une trilogie d'aventures sur l'esclavage et le combat pour l'abolition.
Ouais. Et bah c'est fabuleux. C'est vraiment génial. C'est Timothée de Fombelle. Alors, pour ceux qui le connaissent, on l'aime pour sa capacité à faire vivre des tas de personnages, à nous faire voyager, à nous faire rêver, à nous faire... Enfin, c'est des aventures, c'est toujours des aventures incroyables. Voilà, il a cette écriture qui... C'est du roman, hein, mais qui est presque poétique et qui fait tout de suite rêver. Il a un rapport à l'enfance assez merveilleux, je trouve. Et ça marche chez les ados, ça marche chez les adultes, il nous fait... rêver. Alors ici, on va dire le thème ne fait pas rêver, mais l'aventure elle-même fait rêver. Donc j'ai lu les deux premiers tomes, même de Alma, puisque les deux premiers tomes sont sortis. Et Alma, son histoire, c'est une petite fille qui a grandi complètement isolée dans une vallée en Afrique avec son père, sa mère et ses deux frères. Donc ils sont complètement coupés de ce qui se passe dans le monde. On verra après, on comprendra après pourquoi. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que c'est ça qui fait la richesse des romans de Fombelle, c'est qu'on découvre petit à petit les choses. Mais bref, ils vivent isolés, donc ils ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde. On est au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, donc l'esclavage, ils ne connaissent pas, ces enfants. Mais ils vont le découvrir, parce que un jour son petit frère va quitter la vallée, va être un peu curieux, va vouloir voir ce qui se passe au-delà, et va se faire enlever et être embarqué pour être esclave. Évidemment, Alma va partir à sa recherche, et c'est là le point de départ de sa grande aventure. Évidemment, chez Fombelle, on a toujours des histoires, plein d'histoires parallèles. Et l'histoire principale en parallèle, c'est celle de Joseph Mars, un jeune garçon qui va embarquer dans un bateau qui s'appelle un grand trois-mâts de transport d'esclaves, qui s'appelle la Douce Amélie. Il embarque, entre guillemets, clandestinement. Il a un objectif dans ce bateau. Il va chercher quelque chose. Il pense que quelque chose est caché dans ce bateau. Et donc, il embarque clandestinement pour partir à la recherche de ce mystère. Le pitch est assez classique, c'est rien de fabuleux, mais ce qui fait la recherche de la richesse de tout ça, c'est le fait qu'il y a toutes ces histoires autour, tous ces personnages qu'on va découvrir, tous ces voyages qu'on va faire. On va aller en Afrique, on va aller en Europe, on va aller en Amérique, on va aller dans les Caraïbes, on va découvrir le monde entier de l'esclavage, oui, donc cet aspect très dur, très sordide, voilà, il mâche pas ses mots, hein, il est très honnête sur tout ce qui se passe, enfin, dans ses bateaux, et on va voir tous ceux qui font cet esclavage. On va avoir, et c'est des personnages secondaires, mais quand même très riches, on les connaît tous, ils sont hyper bien construits, bref, c'est d'une richesse absolue, et on l'ouvre et on ne s'arrête plus. On ouvre Alma et bon, on ouvre Timothée de Fombelle, hein, je suis fan, hein, j'adore.
Ça ne semble pas du tout.
Ouais, voilà, il y a du parti pris là. Hein.
Ouais, ouais, comme tout Timothée de Fombelle, on ouvre et on ne veut plus le fermer parce qu'on est complètement happé par ses voyages, par tout ça. C'est un univers incroyable qui construit à chaque fois, et Alma, voilà. On ne se trompe pas avec Alma, il est reparti dans une épopée incroyable. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte et de voir la conclusion de tout ça.
Alors, Timothée de Fombelle, c'est un auteur et dramaturge français. Il a écrit en 2020 le premier volet d'Alma, où il a reçu les éloges du monde des livres, de lire. Il a reçu des prix, d'ailleurs, le prix France Télévisions, le prix Gulli du roman, le prix Sorcière. Et il y a une histoire intéressante. Son éditeur anglo-américain, Walter Brooks, a décidé de ne pas publier le roman. Parce que selon lui, quand on est blanc du côté de ceux qui ont exploité les Noirs, on ne peut pas décemment s'approprier l'histoire de l'esclavage. Voilà, vous avez 2 heures.
Oui, ça a fait un grand débat, effectivement.
Ça a fait un grand débat à l'heure de la cancel culture et tout ça, voilà. Voilà, c'était juste au passage une anecdote sur ça. Il a vécu en Côte d'Ivoire quand il était petit, Timothée de Fombelle, mais 2-3 ans, je crois. Voilà, il est parti, parce que ses parents y travaillaient, il est parti après.
Ouais, bon, jetez-vous dedans de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, vous allez... être émerveillé.
Et alors,
c'est
ce tome 3, tu l'as quand ?
Je sais pas. Le tome 2 vient de sortir, donc il va falloir attendre un peu, je pense. Il est prolifique, mais...
Tous les 2 ans, tous les 1 an, ouais. Un peu plus d'un an. Il est gros comme ouvrage, le tome 1 ?
Ah bah oui. Oui, c'est des livres importants. Ouais. Pour un ado, ça doit faire... dans les 400 pages, ouais.
Pas que pour les ados.
Non. Oui.
Pour moi aussi.
Pour les jeunes papas.
Ouais. Oui, mais on peut y aller.
On peut y aller.
Ça passe très vite... Non, t'es bien content qu'il y ait 400 pages quand tu l'ouvres.
Tu nous as pas sélectionné de petits passages à lire?
Ah non, j'ai pas pensé. Mais je le fais jamais, j'y pense jamais.
Ben oui, je sais bien. C'est pas grave, tu en trouveras un d'ici la fin de cette émission.
Peut-être bien.
Merci. C'est quelle maison d'édition en France, du coup?
Ça doit être Gallimard.
Gallimard.
Gallimard. Ouais. Marlène, la meneuse de bête Ferrier, 14e siècle. Valérie, peux-tu rendre le livre à Marlène,
oui,
s'il te plaît?
Oui, je rends le livre à Marlène.
Ouais. Même si tu l'as lu ou pas, Valérie?
Alors, je l'avais lu il y a 3 ans, je l'avais offert à ma pré-ado et je l'avais lu avant de lui offrir pour être sûre qu'il soit acceptable.
D'accord.
Ah, je fais de la censure.
Exactement. Ouais. Et comme Marlène a dit, tiens, je vais le lire, j'ai dit, ouais, moi aussi, mais je ne l'ai pas relu et là, je ne me souviens absolument plus de ça.
D'accord.
Dommage.
Je suis en train de regarder sur Babelio et je me dis, mais je ne me rappelais pas du tout de ça, en fait.
Moi, c'est le contraire. Je fais lire à mon enfant de 8 ans pour dire, c'est bien ou c'est ennuyeux?
Ouais. Non, mais moi j'ai une enfant qui lit beaucoup trop, et du coup,
Et donc, tu lui as acheté le tome 2.
Et donc, je ne lui ai pas acheté le tome 2.
Et ben voilà.
Voilà.
Et
c'est bravo. Ce qui te manque.
Pourquoi c'est encore plusieurs tomes? Je ne l'ai pas.
Ça finit pas.
Il y a un deuxième tome.
Et c'est ce que j'ai vu en allant sur Babelio à l'instant. Mais ça ne m'a pas choqué la fin de celui-là. Enfin, après, c'est il y a 3 ans. Mais,
Alors, 14e siècle, devant la cour de Bourgogne, la découverte d'un cadavre atrocement mutilé accuserait une jeune fille marquée d'une étrange croix sur l'épaule accompagnée d'un loup. Est-elle une meneuse de bête diabolique?
Absolument
Marlène.
Pas.
Ah ben je vous dirai pas.
Ah ben non, sinon ça ne sert à rien.
C'est pas drôle.
Et oui.
Non. Ah ben j'ai bien aimé. Hein. Donc tu viens de le dire. Donc c'est en plus j'adore les petits prénoms parce que c'est vraiment le Moyen Âge. Alors on est vraiment dans un roman qui se base sur l'histoire de France. Donc on est sous le règne de Philippe le Hardi. Il y a toutes les châtes. Alors. Les châtelaineries. Difficile à prononcer.
Ouais, pas facile.
Voilà. Il y a beaucoup de découvertes de noms et de termes du Moyen-Âge avec les explications. Parce que si on vous dit un jongleur aujourd'hui, on pense à quelqu'un qui fait de la jonglerie, on est d'accord.
Oui.
À l'époque, on n'est pas là-dessus. On est plus sur quelqu'un qui fait des spectacles d'un peu tout, c'est-à-dire il raconte des récits et épiques en rajoutant des gestes, la parole. Enfin, un peu comme nous, on ferait un spectacle maintenant, on regarderait quelqu'un faire un spectacle théâtralisé, en fait. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Les meneurs de bêtes... si on prend la définition, nous, on va se dire, oh, c'est quelqu'un qui mène son troupeau, qui
fait,
voilà. Non, pas du tout. Donc, à l'époque, c'était plutôt des personnes qui étaient craintes, puisqu'ils étaient apparentés à la sorcellerie. Bien souvent, ils finissaient au bûcher. S'ils avaient un peu de chance, on les étranglait avant, histoire qu'ils souffrent pas trop. Si le bourreau était méchant, eh ben non. Voilà. Et donc, ces meneurs de bêtes, ils font peur encore plus que toutes les personnes qui, à l'époque, étaient considérées comme des guérisseurs, je dirais. Voilà. Donc, effectivement, on est dans un roman historique. Il y a, au milieu de cette histoire, ce cadavre, ce crime. Donc, on part un peu sur du policier, quelque part, mais pas vraiment, parce que, du coup, l'enquête, elle est pas... Enfin, c'est pas une enquête réellement menée. Et tout tourne autour d'une héroïne, donc Izan. J'adore ce prénom.
Oui, très joli.
Donc, Izan, dans le début de l'histoire, c'est un bébé nouveau-né qui est abandonné, pas de façon voulue par sa maman, hein, mais qui est abandonné car illégitime. Son grand-père ordonne à l'intendant du château de tuer le bébé qui vient de naître.
Ça rappelle un peu une histoire.
Voilà. Connue. La maman espérera toujours pouvoir la retrouver un jour et du coup veut lui mettre une espèce de petite croix autour du cou. Ce qui lui est refusé, donc elle prend une dague et elle fait cette croix dans le dos de l'enfant à vif, avec un petit glaive, un petit couteau. Et donc cette fille va avoir dans son dos cette croix et qui pourrait lui porter malchance puisque bah mon Dieu, elle a la trace du diable sur elle. Donc voilà, donc ça c'est le début.
C'est pas très sympa de faire
voilà.
ça.
Voilà.
Bah, en même temps, elle avait rien pour la tatouer, donc.
C'est vrai qu'à l'époque, ça existait peut-être pas. Ouais. L'encre. Si, ça existait, l'encre.
Ah si.
J'y avais pas pensé.
Mais non.
Non.
Bah là, après, bon, voilà, c'est vraiment. Donc, elle est abandonnée dans la forêt parce que l'intendant n'a pas la force de tuer ce bébé, finalement. Et elle se retrouve dans le. Alors, c'est pas le nid, mais elle se retrouve dans la.
Tanière.
Dans la tanière d'un loup, d'une louve. Qui met bas à côté de ce bébé, qui ne l'a pas tué. Bon, on sait pas. Voilà. Et elle va s'accrocher au petit louveteau qui vient de naître. Et en fait, ils sont inséparables. Et ils resteront inséparables jusqu'à la fin du roman. Voilà. Donc elle ne l'appellera que loup. Il n'a pas d'autre prénom, ce loup. Il fait peur. Et elle se promène avec un loup à l'époque où la sorcellerie est mal vue. Donc forcément... En plus, elle a une croix dans le dos. C'est tout,
combo tout, perdant.
Voilà. Tout pour s'attirer les foudres. Donc, effectivement, tout le long du roman, il y a un garçon qui va être avec elle. Je vais vous en parler après. Et qui va lui dire, mais c'est pas possible. Tu t'attires tous les problèmes du monde. Voilà. Donc, elle tombe sur un jeune qui vient la secourir au tout début, qui s'appelle Gabriel, mais qu'elle va appeler Ange. En référence à l'ange Gabriel, tout le long du roman. Et puis, on va dire que du coup, entre eux, se jouera un lien d'amitié, d'amour, on ne sait pas trop où ça va, mais voilà. Voilà, et donc cette jeune et ce garçon vont être accusés d'avoir tué la petite servante qui est retrouvée dans les jardins d'un château. Et en fait... Eh bien, je ne vais pas vous dire la suite, sinon c'est pas drôle. Mais par contre, ils vont être poursuivis par tous les châtelains, par tous les ducs et comtes de Bourgogne, parce qu'il faut les condamner à mort, il faut les brûler, parce que c'est eux qui l'ont fait, et que tant qu'ils n'auront pas été déclarés coupables et été brûlés en place publique, eh bien, ça ne le fera pas. Voilà. Et eux, ils feront tout pour leur échapper. Alors, on va juste rencontrer notre personnage qui est assez effrayant et qui adore aussi, les loups, les renards à l'époque, etc. Qui adore préparer des potions, des amulettes, et qui est connu pour ça, et qui fait peur, et qui en même temps dérange pas grand monde non plus, donc on le laisse un peu. C'est, donc, il s'appelle Herto le Roux. Et Herto le Roux, il a décidé qu'il voulait s'approprier le loup d'Isane. Voilà.
Il veut le voler.
Il veut le voler, il veut soit l'utiliser, parce qu'il veut récupérer les pouvoirs de cette fille en pensant vraiment qu'elle est une meneuse de bête et que donc elle a un pouvoir et qu'il veut qu'elle lui transfère à lui. Et puis il lui dit très clairement que si elle ne lui transmet pas, au pire, il tue le loup, il s'en fait de la peau, et puis avec les ongles, la peau, enfin les os, tout ce qu'il fait, il fera des amulettes et il sera riche, quoi. Voilà. Mais c'est très agréable à lire.
Disais donc qu'il y a plusieurs tomes.
Alors voilà, il y a un second tome qui s'appelle L'envol du cygne. Et en fait, le tout, c'est la série des Compagnons du loup.
D'accord. C'est que ça a marché, donc il s'est dit, je vais continuer l'histoire.
Alors, c'est Anne Ferrier, donc c'est une date.
C'est Anne Ferrier, pardon.
Mais ils sont déjà un peu anciens, puisque le premier tome, il est de 2012, et le tome 2, il est de 2015.
Ok.
Voilà. Mais on ne l'a pas. Donc, j'avoue que je l'ai mis en commande, parce que j'ai vraiment envie de le lire.
Anne Ferrier, romancière, auteure pour la jeunesse, professeure de français en collège. Après quelques concours de nouvelles, elle décide de se lancer dans l'écriture. Elle a écrit plus d'une trentaine d'albums de textes pour la presse et de romans. Voilà.
C'est super bien écrit, hein. C'est facile à lire.
Ça a l'air,
là, par contre, c'est petits ados. Hein. On n'est pas... voilà.
Ah, c'est, ouais, c'est plus jeune.
Ouais, c'est facile.
Collégien, de 11 à 110, à 111 ans.
C'est facile.
Ok, merci. C'est quelle maison d'édition ?
Oscar.
Oscar.
Oscar, super. Claire, La Cité des Brumes oubliées de Sakisho Kashiwaba. C'est l'histoire qui a inspiré le chef-d'œuvre d'Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro.
Oui, alors c'est bien cette petite pastille qui m'a donné envie de lire le livre. Qu'est-ce qui a bien pu inspirer ce magnifique film de Miyazaki ? J'étais assez surprise. C'est intéressant à lire. Ce sont des références finalement très vagues. En fait, j'imagine qu'en lisant ce livre, ça a nourri toute une réflexion, hein, parce que vous retrouvez très très peu de choses brutes de.
C'est pas un manga, hein,
Non, c'est un roman. Voilà, c'est un roman qui est apparu donc au Japon en 1975. C'est pas tout jeune. Apparemment, ça a eu son succès. L'auteur en a écrit d'autres. Bon, voilà, c'est une auteure jeunesse qui est suivie. Alors, c'est court, hein. Ça se lit très vite. Ça fait 140 pages. C'est des caractères assez gros. Alors, c'est un peu là la difficulté. C'est que je trouve que, bon, pour un adulte, on reste un peu sur sa faim. Donc j'ai essayé de me mettre dans l'esprit d'un plus jeune ado. Effectivement, ça, je pense que c'est quand même aussi jeune ado. Je pense que même un bon lecteur CM2, 6e, 5e, voilà, je pense qu'il lit ça facilement. Pourquoi on reste sur sa fin ? Parce qu'il y a en fait, cette fille, il lui arrive un tas de choses, il y a des aventures, c'est plutôt un parcours initiatique. Mais il y a un problème en début de page et au milieu de la page, c'est déjà réglé deux paragraphes, les péripéties sont déjà réglées, quoi. Alors on n'a pas le temps d'aller dans le problème, de se dire mais comment elle va faire et puis de découvrir la psychologie du personnage, tout ça, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Donc en ça, il y a vraiment un aspect conte finalement où les choses en fait sont vite survolé, il y a énormément de magie, les choses, voilà, ça apparaissent un peu rapidement, et puis sont vite dénouées. Donc les personnages, il y en a plein, il y en a toute une galerie, mais finalement, donc ils sont toujours décrits un peu que par certaines caractéristiques, hein. Donc il est grand, il a des grandes oreilles, ou bien, voilà, enfin, il y a un énorme chat qui a la taille d'un gros chien. Voilà, bon, je sais plus, hein, moins une quinzaine, hein, de personnages, mais voilà, je peux pas vous en dire trop. Donc c'est en ça que je trouve que c'est assez proche du conte. Et puis sur ce qui était plus intéressant pour moi en tant qu'adulte, je pense qu'un enfant, il apprécie, hein, lire ça. Mais en tant qu'adulte, ce qui était intéressant, c'était donc de chercher les influences, ce qui a intéressé Miyazaki, finalement, pour faire son film. Qu'est-ce qu'il a pu trouver dans ce livre ? Et y a toute cette façon dont l'héroïne, qui s'appelle Lina, arrive dans ce monde magique. Parce qu'en fait, elle vit, comme vous et moi, dans un monde contemporain, 21e siècle. Elle est envoyée en vacances. Son père lui dit « Ah, mais tu vas voir, va là-bas, prends le train, fais tout bien ce que je te dis, suis la feuille de route, et à la gare, on va venir te chercher. » Donc, bon, elle est très confiante dans les paroles de son père. Elle débarque dans un tout petit village qui est peu peuplé, et puis finalement les gens lui disent « Ah bon, mais tu vas dans la cité des brumes oubliées, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je connais pas, toi tu connais pas, personne ne connaît. » Donc là on se dit « Tiens, bon, c'est un peu bizarre, parce qu'on est quand même au 21e siècle, on a une enfant de 12, enfin, j'imagine qu'elle a une douzaine d'années, qui est un peu laissée à l'abandon, comme ça, au fin fond du Japon. » Et puis finalement, bon, ben, elle s'est dit, j'ai fait tout ce trajet, j'ai fait une demi-journée de train, je veux pas revenir chez moi. Donc, bon, elle s'aventure un peu, elle sort de la gare. Il est souvent question de se retenir, de pleurer. Mmh. Et puis, bon, finalement, quelqu'un passe en mobylette. Alors, elle se dit, je vais l'attraper, quoi. Alors, elle lui pose une question. Et le type lui dit, oh, mais moi, je sais pas où vous allez, mais bon, si vous voulez, je peux vous faire 3 km, je vous déposerai plus loin. Bon, bah, ok, quoi. Alors, hop, la partie sur la mobylette. Et puis, en descendant de la mobylette, elle est au pied de la montagne. Et puis, il y a je ne sais quoi qui l'attire. Alors, elle a un fameux parapluie, là, qui est blanc avec des points rouges et une tête de clown. Et le parapluie, soudainement, s'ouvre et s'envole. Alors, elle va le récupérer. Et petit à petit, comme ça, elle est emmenée, en fait, à gravir ce chemin de montagne. Et voilà, donc et elle arrive en fait dans cette montagne qui pour les Japonais sont des lieux sacrés, mystérieux, voilà, loin de la vie quotidienne. Donc déjà c'est pas par hasard qu'elle a placé son histoire dans une montagne. Et elle finit par arriver plus ou moins par hasard, en fait en se laissant guider finalement par une espèce de magie, de destin, dans cet endroit où elle rencontre beaucoup de gens, dont une femme. Donc elle est hébergée dans une pension. La femme est horrible, hein, c'est une petite mamie acariâtre. Alors on n'est pas du tout dans la mamie gâteau, elle est horrible. Moi, elle m'a fait rire, cette mamie.
Une vieille mégère, la tête bien trop grosse.
Voilà. Et là, on retrouve. Enfin, moi, c'est là que je me suis dit, ah, Baba Yaga,
ouais,
hein, ouais. La sorcière, qui a une grosse tête, elle est surdimensionnée dans Miyazaki. Et puis bon, finalement, elle est peut-être pas si méchante que ça.
Oh bah oui, voilà. Forcément, donc là, voilà. C'est les apparences.
C'est là d'où l'intérêt des personnages. Je trouve souvent c'est chez Miyazaki, c'est un peu l'ambivalence, quoi. Et puis l'autre chose, je pense qu'il a beaucoup marqué, c'est finalement le travail. Enfin, c'est comment dire, le grandir par le travail. Une espèce de bon, pas de rédemption, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'advenir par le travail là-dedans. Donc toutes les personnes qu'elle rencontre vont la qualifier par le travail qu'ils vont lui donner à faire. Alors on est un peu surpris parce qu'on se dit bah quand même c'est un enfant, mais c'est bon, voilà, on est dans un monde magique, donc il faut qu'elle... c'est un peu comme les tâches, si vous savez, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule, quoi. Quelque part, il faut qu'elle se qualifie en faisant ça. Donc, comme elle est dans un monde magique, c'est un peu spécial, donc il faut qu'elle fasse appel à son imagination, à sa force, à son courage. Voilà, elle doit mobiliser tout un tas de compétences, de qualités pour finalement bah, réussir ce qu'elle doit faire. Et là encore, Chihiro, dans le film, elle travaille. Elle est encore plus petite, d'ailleurs, le personnage. Elle a, je sais pas, 5-6 ans peut-être. Et vraiment, elle travaille dans ce monde magique, hein. Elle fait beaucoup de choses. Donc je pense que c'est voilà. Ça l'a marqué, je pense, la question du travail et puis d'un monde magique où finalement, on ne sait pas bien comment on y arrive.
Super, ça donne envie.
Mmh. Ouais.
Et c'est, en fait, t'es pas trop tenté de rechercher les liens avec le voyage de Chihiro quand tu le lis, ou tu l'as lu avec un œil neutre?
Ben si, c'est ça. Enfin, si tu veux, moi, adulte, j'ai eu du mal à justement ne pas chercher sans arrêt parce que j'adore ce film. Et en oui, plus, je suis vraiment, voilà, j'adore ce travail-là de Miyazaki. Donc, mais je me demande comment un enfant le lit, parce que voilà, je vous ai dit les péripéties se règlent très très vite. C'est en tant qu'adulte, je trouve qu'on reste un peu sur sa fin, quoi. On aurait aimé que ça soit, bah voilà, des gros tomes.
C'est une base pour le rêve, mais oui, c'est.
Ouais.
Tu l'avais lu aussi, Pauline?
Non. Non. Je pense qu'un jeune enfant, un jeune ado, je pense qu'il prend du plaisir, ouais.
Super, maison d'édition.
C'est Yinis.
Yinis. Parfait. Bah, écoute, on va rester avec le voyage de Chihiro et on va entendre une des musiques du film par Joe Hisaishi. C'est A Summer Day. Voilà, après cette douce balade, on va aller avec aussi une douce balade, celle, la voix de Valérie, qui va nous présenter Tous nos jours parfaits.
Qui va tenter de le présenter parce qu'elle va vous avouer la triste vérité qui est qu'elle ne l'a pas lu.
Non, mais tu ne le présentes pas si tu ne l'as pas lu.
Parce que
Non. Qu'est-ce que c'est ce travail ?
Si, je le ferai parce que j'ai fait une promesse. Parce que quand on a choisi le thème de l'adolescence, j'ai été voir mon ado pour lui dire « Qu'est-ce que je peux présenter comme livre ?» Voilà, a été la première réponse. Et après, elle m'a dit « Les chroniques de Bridgerton ». Voilà. Là, j'ai dit non. Donc, je me suis offusquée. J'ai dit, puisque ça, je te retire tous tes livres. Enfin, bon, bref. Non, c'est compliqué, la littérature ado.
Grands ados, c'est très compliqué.
Ouais. Voilà. Donc, déjà, bon, j'en profite pour tirer mon chapeau à ceux qui travaillent dans des centres de documentation et d'information auprès des ados pour arriver à leur continuer, à leur donner envie de lire parce que c'est, je me rends compte quand on a fait cette sélection, qu'on passe de Meneuse de bête qui est tout mignon à des choses un peu, Belle, Harry Potter, des choses comme ça. Ah, ben, à Tous nos jours parfaits, nous sommes tous des menteurs, et ils meurent tous à la fin, les chroniques de Bridgerton et tout ce genre de littérature qui.
C'est problématique, les grands ados. Ouais. C'est compliqué.
Avec les adultes, c'est souvent pas d'accord.
Il manque la transition, c'est là, que tu nous fais ressentir. Il manque un glissement en douceur vers je rêve à je suis dans le deuil, dans le dans le harcèlement, dans l'amour violent et dur et qui
déchire. C'est intéressant ce que tu dis, Pauline. Il y a des classes d'âge d'adolescence que l'on ne pense pas forcément.
Et en même temps, tu te dis, si parce que j'ai eu ce débat avec mon ado de 14 ans, de dire tu passes quand même d'une belle littérature parce qu'elle lisait vraiment des trucs super.
Oui.
Et ça a commencé à vriller avec les vampires en cinquième.
Oui,
et alors là, la quatrième, mais alors, c'est ça. Et là, ce roman-là, Tous nos jours parfaits, elle m'a dit, c'est le roman parfait. Alors, je vais arrêter de l'imiter parce qu'elle va me tuer.
Mais en disant, surtout qu'elle ne parle pas comme ça. Mais...
Avec les yeux en l'air, on ne les voit pas à la radio.
Elle me dit, mais il y a tout dedans. Il y a l'amour, ils sont au collège, ils se détestent. Il y a un qui est bipolaire, puis il va y avoir du suicide, et puis il va y avoir de l'amour, et puis... Et en fait, j'ai dit, mais c'est horrible. Elle me dit, ouais, c'est trop bien. Voilà. Donc, et en même temps, je me dis, si ce genre de littérature, je lui enlève, elle va y aller encore plus. Et d'un autre côté, je me dis, youpi, elle lit encore, elle arrêtera pas. Parce que je me dis, ça tient à pas grand chose.
C'est tout beaucoup miroir. Puis ils aiment beaucoup ce qui est miroir, mine de rien.
J'espère pas.
Oui, non, mais pas sur toutes les parties.
Oui, bien sûr. Non, mais après, j'imagine que tu t'identifies parce que là, ils sont au lycée, donc ils sont un peu plus grands. C'est une histoire d'amour qui a été adaptée après en Netflix. Donc hier, j'ai failli tricher. J'ai dit, je vais aller Netflix pour regarder. Puis non. Et j'avoue que j'en ai lu un petit peu. C'est vraiment pas de la grande littérature. L'histoire d'amour, forcément de collégiens, un qui est un peu mystérieux, voilà, qui zone un peu, puis elle qui est une super élève, mais qui a quand même souffert parce qu'elle a perdu sa sœur. Enfin,
tourmentée.
Tout y est, effectivement, comme disait ma fille. Et par contre, c'est vrai qu'en écriture, on n'est pas glop. Mais d'un autre côté, tu te dis, mais si elle lit pas ça, elle va arrêter de lire. Et puis après, c'est fini, elle s'y remettra pas. Enfin,
C'est l'aspect compliqué les grands ados. C'est que soit tu pars dans l'adulte pour avoir de la littérature de qualité, mais ça les touche pas forcément, ça les intéresse pas forcément. Alors, il y a quelques titres qui marchent. J'ai failli présenter Petit Pays, par exemple, qui marche bien, qui est vraiment un livre de qualité, qui est absolument génial. Oui. Mais voilà, il y a quelques exceptions auxquelles il s'attache, mais sinon, c'est beaucoup de choses comme ça. Et c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut qu'il lise et qu'il lise de tout? C'est qu'on accepte. Ou est-ce qu'on veut les dégoûter de la lecture? Est-ce qu'il ne faut pas passer par ça pour qu'ils aient du plaisir à lire? Parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont envie de ça.
Oui, mais sûrement ça répond à un besoin. Puis quand ils en auront marre, ils passeront à autre chose.
C'est ça. Voilà.
C'est ça. Parce que moi, j'ai essayé L'Alchimiste l'autre jour. J'ai dit, tu verras, c'est super.
T'as perdu.
J'ai perdu. Mais j'ai pas tout perdu. Parce que quand on a parlé de Tous nos jours parfaits, elle m'a dit, attends, je te le spoil. À peu près en trois quarts d'heure. Donc, dans les détails, j'ai eu droit à ça. Et puis, à la fin de la discussion, elle me dit, et toi, tu lis quoi en ce moment? Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, il y a l'émission dans deux jours, je tiens le bambou. Et effectivement, je lui ai dit, je lis le livre Blackwater, la crue.
Oui.
Tu connais, enfin vous connaissez tous. Et là, j'explique en fait, donc c'est chez Monsieur Toussaint Louverture.
Ah. Ouais.
En fait, je lui annonçais que c'était un livre série Netflix à venir. Et là, de suite, ben forcément, je capte l'intérêt. Voilà, c'est des petits romans très courts, très mimi, qui sont en train de sortir. Et là, par rapport à toi, Pauline, moins de frustration parce qu'ils sortent tous les 15 jours. Une histoire où il y a un peu de science-fiction, un peu de matriarcal. Donc là, forcément, mon ado-fille, waouh, elle va s'y retrouver à fond dedans. Et avec ce suspense de se dire, il faut que j'attende. Les dates sont marquées sur le livre. Quand est-ce que ça va sortir? Et donc, tu as ce côté où tu es impatient d'attendre vendredi prochain, 22, pour avoir la suite. Oui. Et c'est une histoire, en fait, qui se passe donc aux États-Unis. Il y a une crue sordide. Les villages sont ensevelis sous l'eau. Et... pendant qu'il y a une personne qui a une barque en train d'essayer de se naviguer dans le village, voir dans la ville, qu'est-ce qui peut être sauvé? Il découvre une jeune femme qui était restée coincée dans un hôtel pendant 4 jours. Une femme avait des cheveux longs, très roux, voire rouges, de la couleur de l'eau. Et on sent déjà le mystère planer. Alors, ça ne devait pas être un livre normalement pour les ados. Mais quand j'ai commencé à raconter ça à mon ado, il m'a dit « Oh, trop bien, je peux le lire ?» Et là, j'ai dit « Ça y est, peut-être la transition est faite. Fini tous les jours parfaits. Fini les chroniques de Bridgerton. Fini ce genre de livre. Je vais y arriver. »
Ouais, ben, voilà. Toussaint Louverture.
Donc, Toussaint Louverture.
Oui, j'ai une collègue qui travaille beaucoup sur les livres de Toussaint Louverture, qui fait lire pas mal les ados. C'est rigolo que t'en parles, parce que, et ça marche bien. Ouais. Ça marche plutôt bien. Alors, il faut les choisir. On peut pas aller n'importe où chez Toussaint Louverture pour des ados. En tout cas, quand on est prescripteur en collège, à la maison, c'est autre chose. Mais
ouais. Là, c'est Michael McDowell. Et accessoirement, c'est lui qui a écrit Beetlejuice.
Oui.
Voilà, et qui a co-écrit L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ah.
Donc, je pense qu'il y avait quand même un côté... Voilà.
C'est quand même adolescent. Ouais.
Voilà. Ouais. Et cette saga, en fait, qui a 8 tomes donc, qui vont sortir tous les 15 jours, c'est pas de la grande littérature non plus, donc c'est accessible pour les ados. Il y a ce côté, on ne prend pas pour un ado parce que c'est vraiment de l'écriture pour adultes, mais c'est assez simple et il le revendique aussi en disant je fais quelque chose, en fait c'est de la lecture facile de tous les jours et ça va sortir tous les 15 jours. On est entre le journal, la nouvelle, et c'est haletant. Enfin, il y a vraiment cette histoire où on se dit, cette jeune femme mystérieuse, comment elle a pu rester 4 jours dans cet hôtel qui avait été évacué. Mais je ne sais pas, peut-être que les filles avaient l'air de connaître à la MDL, donc peut-être vous l'avez lu.
Non,
peut-être vous avez déjà la suite à l'avant-première.
Sur France Inter, je crois qu'ils en ont parlé ce week-end. Là, effectivement, ça avait l'air pas mal du tout. Mais alors, c'est édité aux États-Unis depuis de longues années.
Oui, je crois que années 80 aux États-Unis. Hein,
ça arrive seulement en France.
On a 40 ans de retard.
Mais c'est vrai que ça donne envie de lire. Et puis, comme ça va sortir tous les 15 jours, c'est des petits poches assez courts à lire, ça incite. Ça incite, donc, pour les ados,
à tester.
Bien.
Ouais. Mmh. Voilà.
Voilà. Et comment changer de thème, s'approprier son propre
pas
thème.
Du
merci
tout.
Valérie.
Pas du tout. J'ai noté une vilaine transition puisque je t'avais dit que je parlais de
c'était pas mal fichu.
On sait pas de quoi parle.
Ça a abordé le problème des
gens. Non, mais c'est parce que.
Il y a un bipolaire, il y a un jeune qui veut mourir.
C'est ça.
Alors, toi qui parlais de Netflix, ils ont produit un film sur Tous nos jours parfaits avec Elle Fanning et ce bon vieux Luke Wilson, entre autres.
Mais pour citer mon adolescente, non, mais le livre est vachement mieux que le film.
Il a 18 ans, c'est ça?
Oui, moi, elle maintient que le livre, parce que j'ai appris aussi qu'elle l'avait regardé, du coup. Et apparemment, le livre est beaucoup mieux que le film. Voilà.
J'adore les photos des autrices de ces romans-là.
Ouais,
on dirait que c'est vraiment pour faire vendre aux adolescents.
Ah ouais.
Il faut être...
Le regard un peu aguicheur.
Ouais, c'est ça.
Hein, c'est étonnant que ce soit édité au Pulp Fiction. Mais bon. Voilà. Ils le vendent quand même en disant le roman qui a inspiré le film Netflix. Hein, voilà. Donc ça te...
Ouais, c'est pour ça.
Voilà, même photo.
Oui.
Pulp Fiction.
Ouais, c'est surprenant, mais en même temps, si ça fait lire, ma foi, les ados plutôt qu'ils décrochent, il faut...
Mais oui, c'est très bien.
Voilà.
Il faut de tout pour faire un monde, Valérie.
Ah, on pourrait en faire une chanson.
Ouais. C'était un philosophe américain qui disait ça.
C'est vrai.
Ouais.
Je croyais que c'était la série Arnaud.
Oui, mais c'était dans cette série-là qu'il disait ça. Ok, grands ados, on redescend un peu en âge. Je vais vous présenter un livre pas trop connu qui s'appelle L'île au trésor.
Ah oui.
D'un écrivain pas trop connu qui s'appelle Robert Louis Stevenson.
Ah oui.
Illustré dans ce livre par Benjamin Bachelier et réécrit par Aurélien Dalméda. Donc ça faudra... J'aime bien ceux qui réécrivent des livres comme ça pour la BD. Ouais, je comprends pas trop, mais bon. L'île au trésor, ce roman génial, écrit en 1883 et repris à toutes les sauces, qui a inspiré de nombreux auteurs, beaucoup de films. Alors, Maurice Tourneur en 1920. Tout le monde se rappelle d'Orson Welles, qui a aussi joué le rôle du pirate Silver, de Pirates des Caraïbes dernièrement, qui quand même s'inspire du roman. Et même d'Alain Berberian, avec Gérard Jugnot dans le rôle du pirate Silver et Jean-Paul Rouve, ce formidable... Île au trésor, comédie qui n'a pas du tout marché.
C'est pas encore sorti.
Ah si, il est sorti en 2015, je crois, mais ça a été un flop total, critique, spectateur. Apparemment, c'est
comédien réalisateur.
C'est une comédie, Île au trésor, comédie. Voilà, je vais quand même le regarder parce que du coup, j'ai vu le. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une comédie avec Gérard Jugnot? Alors, j'ai regardé les bandes annonces et. Ça avait l'air rigolo par moment avec Jean-Paul Rouge. Je me suis dit, oui, quand même, ils le mettent à leur sauce. Mais non, ça n'a pas marché. C'est complètement nul.
Tu me racontes. Ah,
bon. Bon, et voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce livre. Tout le monde connaît l'histoire. Hein. Alors, les dessins de Benjamin Bachelier sont ici plutôt intéressants. Voilà, c'est comment les décrire, Pauline?
Le mot qui m'est venu, c'est un trait un peu gras. Mais alors, c'est pas très flatteur ce que je dis parce que. Mais.
Oui, oui, c'est un trait un peu gras, ouais. C'est, ça reste quand même coloré. Couleurs...
Ouais.
Ouais, c'est couleur un peu forte, vive. Donc, bon, c'est vraiment l'histoire du roman. Hein. Il n'en sort pas. Bien que ce. Comment il s'appelle? Alors, je vais trouver. Aurélien Almeida, c'est son premier scénario de BD. Cette BD est sortie en 2019. Voilà, tout comme le précédent ouvrage que je vous présentais, c'est histoire de faire connaître à ce public. Exactement adolescent ça. Robert Louis Stevenson et L'île au trésor, qui est quand même le roman de pirates par excellence. Je ne crois pas, de mémoire, en avoir lu un depuis qui soit à ce niveau-là. Je ne sais pas vous.
Non, moi je lis pas trop de romans de pirates, j'avoue.
Donc, je pense à l'eau et je pense à Moby Dick après, mais ça n'a rien à voir avec la piraterie.
Non. Oui, Louis, voilà, la mer. Tu vois, présent. Chez Alma, c'est présent.
Oui, exemple.
Chez Alma.
C'est Casterman qui propose ça. Ouais. Voilà, tu dois bien le sortir ça au collège. Toi.
C'est tout récent, c'est un achat tout récent. C'est un achat tout récent. C'est lu, beaucoup lu sur place et voilà. Encore une fois, ce que je veux, c'est que mes ados, si on leur dit l'île au trésor, ils aient une petite idée de ce que c'est. C'est un très bon moyen. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est intéressant que certains auteurs se chargent de faire ça, parce que un ado qui va lire un quart d'heure, il va aller vers une BD avant d'aller vers un roman, et du coup, c'est un premier pas, et puis du coup, ça, voilà, l'île au trésor, ça lui dit quelque chose, Stevenson, ça lui dit quelque chose. Il a une petite culture de base qui commence à manquer aujourd'hui, malheureusement. C'est très dur de les faire aller vers des classiques. Et je peux comprendre, il y a une offre tellement importante à côté et tellement plus accessible que forcément un classique avec une écriture qui est un peu compliquée pour eux, etc., ils ne vont pas y aller naturellement. Mais c'est important qu'ils les connaissent, je pense, aussi.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Allez, mais je vais te laisser la parole, Pauline, avec une série qui fait basculer les lecteurs de l'autre côté des mythes de la mythologie grâce à leur figure féminine pour rendre à ces voix de l'ombre la place qui leur est due au cœur de l'histoire. Ariadne. C'est dur à dire.
Ariadne.
Ariadne, de l'autre côté du mythe de Flora Boukri.
Bon, je fais pas ma chronique parce que t'as tout dit, non?
Paraphrase.
Parce que bon, vous allez me dire, un livre de, un mythe, il y en a des milliers, des romans qui retranscrivent les mythes. Moi j'en ai plein. Le CDI, c'est vraiment, c'est pas une originalité de d'écrire un mythe. Si. Eux, ils ont réussi à le faire. Et voilà. Et pourquoi? Parce que ils vont de l'autre côté du mythe. Ils prennent le non-héros de l'histoire, la non-héroïne de l'histoire, et ils en font une héroïne. Et ça fait du bien. Parce que, alors, si vous connaissez le mythe de Thésée, un tribut pour le roi Minos,
vient donner sa vie pour venger la mort du fils de Minos, pénètre dans le labyrinthe donc où il est donné au Minotaure, mais finira par tuer le Minotaure. Tout ça aidé par la pauvre Ariane...
qui a prêté son fil.
Voilà, qui prête son fil en espérant être épousée après, et finalement se fait abandonner sur une île comme une pauvre fille. Enfin, bon, vraiment, c'est voilà, c'est la nana qui a donné le fil, et puis après, voilà, c'est pas du tout l'héroïne. Bref, elle en prend plein la tête. Elle sert pauvre juste à donner femme. Son fil. Voilà, pauvre femme. Et ben là, pas pauvre femme. Pas pauvre femme. Et ça, sans trop modifier le mythe, Ariane devient l'héroïne. Et qu'est-ce que ça fait du bien? et vraiment tout ça sans trahir le mythe original, c'est-à-dire que Thésée est toujours celui qui vient donner sa vie, ou en tout cas choisit d'essayer de tuer le Minotaure pour mettre fin à ces années et ces années de sacrifice du peuple athénien, des jeunes d'Athènes. Et Ariane donc va l'aider par amour, va essayer de l'accompagner, mais par amour pour Thésée, parce que évidemment il y a le coup de foudre qu'il y a dans le mythe original, mais aussi pour mettre fin à tout ça et à la folie de son père et au délire de sa mère qui est attachée à ce Minotaure au point de ne plus avoir de vie. Bref, elle veut mettre fin à tout ça, et c'est pour ça aussi qu'elle va aider Thésée. Elle est dans sa folie d'amour, de coup de foudre, etc. Donc le mythe se déroule. Il y a une petite surprise sur le Minotaure qui, voilà, là il y a une petite liberté prise avec le mythe, mais bon, les mythes, on en fait un peu ce qu'on en veut, hein, on le sait. Hein. Et j'ai le droit de vous raconter la fin parce que c'est ce qui fait la qualité de ce livre.
On la connaît, hein. La
fin, voilà, au lieu de se faire abandonner sur une île, elle va le faire elle-même le choix. De rester sur une île et de vivre sa vie parce que elle a les clés en main pour vivre sa vie. Elle a eu ce coup de foudre pour Thésée, mais c'était un peu dans la folie du délire de...
Finalement, elle est pas si bien comme mec.
On va peut-être pas s'engager à aller vivre en Grèce, juste pour être avec Thésée. Bon, il est beau, il est sympa, mais voilà, sans plus, quoi.
Quand on gratte un peu, bon.
Je sais bien, il va croiser Méduse.
Ouais. Donc non, c'est pas une énième réécriture du mythe qui apporte juste une autre petite vision, parce que voilà, il y a vraiment un parti pris dans, je suppose, dans la collection. Il y a Méduse qui est sortie derrière.
J'allais te poser comme question.
Voilà, je crois pas qu'il y en ait d'autres pour le moment, mais voilà, ils sont partis pour un peu changer,
réécrire la mythologie.
Voilà, et c'est assez chouette, je trouve. En plus, c'est des livres assez jolis, donc ça donne facilement envie. Évidemment, chez les ados, on a des fans de mythologie, mais vraiment c'est incroyable. Et du coup, là, on a autre chose à leur proposer.
Le second épisode porte sur la future reine des Amazones, Penthesilea, qui est sortie en septembre 2020.
Ah. Mais c'est quoi la maison d'édition?
C'est Gulfstream.
Ok, super.
Ouais, super.
Vu que tu parles de ça, tu parles de mythologie, un livre qu'on nous avait proposé, qu'on n'a pas choisi, mais que j'ai lu moi chez moi, que j'ai, le feuilleton d'Hermès, la mythologie grecque en 100 épisodes, qui est génial.
Oui, fabuleux.
C'est fabuleux. On lit chaque soir, on lit un épisode avec mes enfants, et ça, c'est Hermès qui raconte un peu mais toute l'histoire de la mythologie de A à Z. Et je ne sais pas s'il y a un deuxième qui n'est pas sorti.
Il y en a plusieurs. Plusieurs, je pense.
Mais ouais, c'est fantastique hein, pour les enfants ou les ados qui veulent, les ados plutôt. Hein, mais moi, c'est des enfants, mais je leur lis. Mais les ados qui veulent. Enfin, remarque.
Lire tout seul.
Mon grand, il a lu tout seul Hermès.
Oui, mais il est ado dans la lecture.
Il est ado dans la lecture. Mais oui, pour la mythologie, c'est extrêmement intéressant.
Ouais. Puis c'est riche, hein, dans la mythologie, on a du choix, hein, quand même, si on veut découvrir la mythologie, il y a de quoi faire pour les ados. Hein.
Et si on veut connaître l'histoire de Romulus et Rémus, on peut lire La Menace de Bête. Des romans d'ado qui s'y rattachent un petit peu.
Oui, il y avait de ça, oui.
Alors, ça m'étonnait qu'on n'ait pas de manga, quand même, avec cette littérature d'adolescents, sachant que les mangas, c'est ce qui se vend un peu le plus chez les ados, en termes de bandes dessinées et autres. Mais s'il y en a un, on a Sur la pointe des pieds, avec Claire Jidi et Ageng, qui nous proposent ce manga. Qui, paraît-il, est excellent, qui est sorti en 2016.
Alors,
non, peut-être pas. Alors.
Si,
peut-être
pas si bien. Non, mais c'est oui. Alors, c'est exotique, si vous voulez, pour moi. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai commencé ce bouquin en pensant que c'était japonais. Donc je me suis trompée, c'est chinois.
Et là, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Parce que de la BD chinoise, bon, moi, j'en connais pas.
Ah, c'est pas un manga, alors, ouais. Non.
Oui, du coup, est-ce que c'est un manga ou pas? Bon, je ne sais pas,
non,
il y a débat.
Non. Pardon, je me flagellerai après voilà. cette émission.
juste petit détail qui a son importance, c'est le tome 3. Donc, c'est La chute du papillon blanc. Bon, ça ne m'a pas du tout gênée pour comprendre un peu de quoi il en était. Donc, nous sommes dans de la littérature pour grands ados. Donc, nous avons des problèmes.
Chouette.
Il y en a plein.
Tous les ingrédients.
Voilà.
Bon, les Chinois n'ont pas de problème à l'adolescence.
Et ben justement.
Les Chinois n'ont aucun problème.
Et ben alors on disait pauvre femme. Et alors là, moi, à chaque fois que je lisais je tournais des pages, je me disais, mais pauvres ados chinois. Enfin, vraiment, je pense que c'est pas toujours facile. Hein, voilà, les transformations de l'adolescence. Mais alors, je pense que dans ce monde, en Chine, c'est particulièrement difficile. J'ai été. On le sait, hein, qu'ils ont une énorme pression des parents, de réussite sociale, d'ascension. Mais alors là, ça transpire dans ce manga qui a été écrit. Donc j'ai regardé JD, elle a écrit des romans qui ont été adaptés donc par elle et son amie là, A Geng, je ne sais pas trop comment on prononce ça, en BD donc.
Et ouais, c'est un récit un peu autobiographique de Gidi qui a écrit un roman.
Ah oui, alors en plus autobiographique, donc ça...
D'acheter les clairs.
Ouais. Donc on arrive, on est dans un lycée. C'est une classe, voilà. Bon, il y a des histoires de camaraderie. Bon, c'est assez classique. Il y a des triangles amoureux. Il y a beaucoup de choses. Et la chute du papillon blanc, bon là je vous le spoil parce que je voudrais vous parler des grandes questions en fait qui sont abordées dans cette BD. En fait c'est une façon métaphorique de parler du suicide d'une de ces lycéennes. Et elle se suicide pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas réussi l'examen de concours d'entrée dans une grande fac. Voilà. Donc elle finit le lycée, elle est censée, là-bas il y a des examens, elle est censée le réussir brillamment, c'est une excellente élève, elle a un parcours scolaire magnifique. Sa mère, elle a deux boulots pour lui payer des cours de soutien scolaire, enfin toute sa vie est centrée là-dessus. Et avec sa mère, elles disent « on a réussi, on fait ça ». Donc c'est vraiment un projet de famille, mais monoparentale, hein, c'est assez, voilà. Et alors là, donc là, cette élève, elle s'appelle Rui Rui, donc ils disent Rui Rui a échoué à son concours. Donc la mère ouvre la lettre et dit « Ah, vraiment, c'est insuffisant ». Et là, le narrateur dit « Quand elle a reçu les résultats, sa mère a longuement soupiré. Elle a d'abord pensé dire quelques mots de consolation à sa fille, mais a finalement décidé que c'était inutile. Elle a simplement dit « Bon, tu repasseras le concours l'année prochaine, tu ne prendras pas de vacances, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et continuer à prendre des cours. Les enfants des autres peuvent peut-être se reposer après le concours, mais nous n'allons pas nous reposer et nous gagnerons. » Rui Rui est restée impassible et a soufflé. Et en fait, quelques heures après, cette jeune Rui Rui se défenestre. Donc, hein, vous voyez, c'est...
Tu fous le seum, là, un peu.
Ouais, non, mais moi, c'est vraiment... Je sais pas. C'est très poignant. Bon, après, on sait hein, que la littérature ado, et justement, ils aiment aborder ces questions-là, mais je pense qu'il y a aussi cette question de littérature chinoise, vraiment. Qu'elle
puisse aborder ce thème-là, c'est quand même fort. Hein. Oui. Est-ce que c'est sorti en Chine? Ça serait bien de se renseigner.
Oui, c'est sorti en Chine, ça a eu un succès fou. D'accord. Et c'est en ça aussi que je me suis dit, ben oui, c'est très, très intéressant parce que il y a une vraie réflexion là-dessus. Voilà, donc il y a un autre problème qui survient. Donc ça prend quelques pages. Hein. Après, hop, la vie continue. Et l'héroïne, elle est confrontée à un autre problème. Une de ses amies est enceinte. Donc on imagine qu'ils ont 15-16 ans. Donc là, on est sur la grossesse très précoce, etc. Et alors, elle est désemparée, cette jeune fille, parce qu'elle ne peut pas en parler à ses parents. Et là, on comprend qu'il y a vraiment un mur avec les parents qui ne pensent qu'à l'école, qu'à la réussite scolaire, à trouver un bon boulot bien payé, la réussite sociale. Et là, c'est complètement...
c'est vraiment
la catastrophe, quoi. Enfin, et donc, elle s'imagine... D'un point de vue narratif, il y a des super inventions. Elle s'imagine plus grande. Donc, on voit son personnage... Elle est assise sur son lit quand elle a 15 ans. Puis là, il y a une femme avec des talons. C'est elle quand elle a 30 ans, en fait. Et elle vient la voir et elle console... La grande console la petite.
Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais alors, le discours est aussi assez costaud. Donc elle lui dit, à sa fille de 17 ans, en pleine crise d'adolescence, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, elle dit, donc la grande de 30 ans, « Mon enfant, nous avons tous notre arbre fruitier particulier. Dans ta vie tout entière, tu n'as le droit de cueillir qu'un seul fruit. » Donc ça, c'est pour lui expliquer que les relations charnelles, il faut attendre le bon. Et donc, l'homme, enfin, voilà, il n'y en a qu'un. Donc ça m'a...
C'est pas par rapport à l'enfant unique aussi, tu dis ça?
Moi, j'aurais plus pensé à ça.
Oui.
Non, enfin, je vous ai pas... Enfin, je vous ai pas lu ce qui précède avant, mais il est très clair que c'est sur le couple. Parce qu'elle lui dit au début, voilà, ça peut avoir un goût amer, puis finalement, ça a un goût sucré. Donc voilà, donc là, je me suis dit, ah, bon, ben, on enseigne aux petits Chinois qu'il y a dans la vie. Enfin, encore une fois, t'as pas le droit à l'erreur, hein, faut trouver le bon. Puis si c'est pas le bon, ben, apparemment,
tu fais avec.
Voilà,
tu
quoi faire avec. Hein. Voilà, donc c'est bon, je me suis dit, ok, c'est un peu spécial quand même, hein, je pense, tenir ce discours-là aux enfants. Et alors, dernière chose, ça, c'est sur la relation parent-enfant. Comme les parents sont très centrés sur une seule chose, sur leurs enfants, et souvent, ils passent un peu à côté. Donc, ils disent, là, à un moment donné, elles ont envie de faire un voyage avec d'autres camarades, donc elles sont obligées de mentir. Parce qu'il est hors de question de dire, je prendrais bien 3 jours avec mes camarades pour faire ma vie d'ado et me socialiser et voilà, avoir autre chose que l'école. Et donc elles mentent. Et alors il y en a une là dont la mère est célibataire, qui bon a sûrement plein d'autres choses à penser. Alors il lui dit mais oui bah, vas-y ma fille va. Donc ils lui font croire qu'ils vont s'entraîner à des examens, enfin voilà, parce que tout tourne autour de l'école. Et la gamine finalement elle est super contente parce qu'elle a l'aval de sa mère, mais elle culpabilise parce qu'elle dit oh là là mais ma mère elle est si facile à berner quoi. Voilà, donc elle culpabilise. Et l'autre, c'est l'inverse, elle a des parents qui sont qui sont deux, donc voilà, ils sont peut-être plus attentifs. Alors elle leur produit un faux dossier, elle a de fausses candidatures, d'examens, de préparation, de ci, de ça. Alors ils épluchent le truc, puis ils finissent par dire oui bon ben vraiment ok d'accord, il faut y aller quoi. Et elle, du coup, elle dit, c'est vraiment étrange. Plus les parents font confiance à leur enfant, plus il est difficile pour lui de les tromper, hein, parce que donc, d'où la culpabilité. Et plus l'enfant est surveillé, plus vite il apprend sous la pression à jouer la comédie et à mentir. Puisque les parents sont des adversaires qu'il faut combattre, il ne prouve pas le moindre remords s'il réussit à les vaincre. Donc, vous voyez, on est là-dedans. Ah oui, les adversaires, les parents... Waouh, donc moi c'est ça hein, qui m'a soufflé. Encore une fois, j'ai du mal à lire ça comme une ado. Hein. C'est
35 cette belle ans, société chinoise qui va dominer le monde dans le siècle prochain.
Oui, mais vraiment en tant qu'adulte occidental, vous êtes quand même assez soufflé par le discours qui est porté.
Ok, mais c'est un beau témoignage justement.
C'est
alors,
un beau c'est témoignage. Oui, c'est en soi c'est pas inintéressant. Hein.
Ça me donne pas envie de le lire, mais c'est un beau témoignage.
Et alors en revanche, quelque chose qui donne vraiment envie de lire, c'est les dessins.
Ah oui, c'est trouvé magnifique.
Ouais, ça colle pas avec le texte que tu nous lis. Ouais, de loin, tu vois des beaux dessins.
C'est très doux.
Oui, c'est très doux. Oui, on dirait de l'aquarelle.
Oui.
C'est très lumineux, tout dans des tons pastels. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que pour symboliser les pensées qui la traversent, pas toujours ce qu'elle dit, mais ce qu'elle pense, il y a des monstres, il y a des petits lapins, il y a tout un florilège comme ça qui symbolise en fait ces pensées non exprimées. Voilà.
Alors, j'avoue que je l'avais pas lu quand il a été donné à l'ado, pensant justement que c'était plus léger.
Ah bah oui, la couverture. Enfin moi, la couverture, faut en parler. Ouais, moi, bravo, c'est clairement Valérie. Ce qui m'a attiré. On voit des oies sur un lac et un fond, un ciel rose avec des nuages. Enfin, c'est juste magnifique.
Si on s'attend pas à ça.
Oui, ma fille, c'est génial. C'est
non, mais
génial.
C'est comme quoi, tu vois, je sens sûr pas tout. Des fois, peut-être je devrais.
Allez, on va passer du coq à l'âne. Merci Claire, Pauline, on va terminer avec toi. Avec ce Roller Girl de Victoria Jamison, Agathe, qui a 13 ans, qui est inséparable de sa meilleure amie Nicole, jusqu'au jour où elle découvre le roller derby. Et oui, je raconte tout, je suis comme ça.
Mais non, tu racontes n'importe quoi.
Non, c'est pas ça.
C'est Astrid des Charlottes.
Ah bon, c'est Astrid des Charlottes? Pourquoi j'ai Agathe et Nicole, moi?
N'importe quoi.
J'ai la traduction tchèque.
T'as fait Google Translate et ils ont changé les noms des personnages en France.
Ok, je m'arrête là. Toi,
Alors, pourquoi j'ai choisi de lire Roller Girl, qui, quand on regarde la couverture, semble être un roman de, voilà, pour petite fille, oui. Voilà, les séries, on a 10 000 écrits dans la série, enfin, la couverture fait pas... Voilà, tu dis pas, ça va être un super roman de qualité. Et là, tu vois en haut un best-seller du New York Times. Déjà, ça pose question. Parce que c'est hyper coloré. Enfin, c'est vraiment le truc pour le vendre.
C'est
voilà.
Presque Roald Dahl, tu sais, quand des illustrations.
Je suis d'accord, ça fait grand primaire, quoi.
Ouais. Oui, ouais. Et puis bon, et moi, j'en ai. Dans le milieu des ados, j'en ai entendu parler énormément. Alors, contrairement à toi, moi, je sais très bien me mettre dans la peau d'une ado pour lire un bouquin. Donc, je me suis mis, voilà, en sixième, cinquième. Et j'ai ouvert Roller Girl. Et là, hop, première surprise, ce n'est pas un roman. C'est une BD ou un roman graphique.
C'est un roman graphique.
Voilà.
Mais bon, c'est une BD, hein.
Donc, ça doit être américain à la base. Je comptais sur toi pour le dire, mais après, a priori, oui, tu t'es attaché à dire n'importe quoi sur mon histoire.
C'est Victoria Jameson est une auteure illustratrice américaine de livres pour enfants. Voilà, je n'ai que ça.
Voilà, donc on est aux États-Unis, on rencontre Astrid et sa super copine Charlotte qui font une énième sortie culturelle avec la maman de Astrid qui va donc au musée d'art moderne, qui va écouter de la flûte et machin. Enfin, bon, elle a ras-le-bol des sorties culturelles de sa mère, bref.
Mais c'est trop ta vie, Valérie.
Alors, emmène ta fille voir du roller derby.
Mais elle s'est mise au roller.
C'est pour ça. Elle en avait marre des sorties culturelles.
Du roller hockey, c'est presque
voilà.
Pareil.
Et voilà, exactement. Je pleure. Donc, bref, là, révélation pour Astrid, le roller derby. Donc, nous, Français, on connaît pas trop. C'est la course de roller. Donc, c'est un monde féminin, j'ai l'impression. C'est assez féminin. Les nanas, elles ont des noms de grosses baroudeuses, des surnoms de roller girl. Le but, voilà, c'est de se cogner pour se doubler. Ouais. Ça va à fond. Enfin, bon, c'est vraiment... Et puis, tu joues la comédie. Voilà,
ouais, c'est bien retranscrit dans les...
J'ai
dans
une amie qui le fait. C'est pour ça que je connais, moi.
Ah ouais, bah oui. Moi, je connaissais par un film. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années. Voilà. Et c'est vrai que c'est un univers tout à fait particulier parce qu'en plus les nanas se mettent dans la peau d'un personnage à fond pour jouer vraiment celle qui va mettre la raclée aux autres. Enfin bon. Donc bref, Astrid, elle est émerveillée, elle veut faire le stage de roller derby absolument qui arrive cet été et donc elle va y aller avec Charlotte, sa meilleure amie de toujours. Et là, Charlotte veut faire le stage de danse classique. Donc commence la voilà. Donc il y a deux histoires dans ce roman graphique, celle de Astrid qui découvre le roller derby. Donc ça c'est un univers assez chouette, assez sympa, nouveau, voilà, dont on entend peu parler nous. Et puis il y a cette histoire d'amitié qui se brise parce que quand on grandit, quand on arrive dans l'adolescence, ben on commence à se trouver en tant que futur adulte et forcément la meilleure amie qu'on avait depuis le CP, ce sera peut-être pas notre meilleure amie encore en sixième. Donc voilà. Alors je suis quand même étonnée du coup du best-seller du New York Times parce que bon ça voilà, les dessins sont pas fabuleux, l'histoire est pas forcément hyper originale. Par contre, je comprends que ça ait accroché beaucoup d'ados pour l'univers du roller derby, pour cette histoire d'amitié parce que ça se lit super bien et que cette Astrid là, elle est un peu à part en tout cas de ce qu'on connaît et ça fait du bien un peu d'avoir une petite héroïne voilà qui se teint les cheveux en bleu pour se marrer avec ses copines et puis qui va apprendre à mettre des coups de fesses pour faire tomber les adversaires, bref, qui se trouve un peu qui trouve qui elle a envie d'être et c'est assez chouette. Donc ça m'a bien plu, c'était voilà, c'était un bon moment de lecture très chouette.
Voilà. Bien. Valérie, tu pourras repartir avec pour comprendre les adolescents.
Ceci dit, la mère est merveilleuse dans cette histoire, hein.
Super.
Vraiment positif, tu vois. C'est...
Ben merci beaucoup. On s'arrête là. Plus personne n'a rien à présenter. C'est très bien. Pour une fois, on a un thème pour la prochaine émission.
Ouais, c'est le Japon. J'adore.
Et ouais, le Japon. On en a un peu parlé. On en reparlera pour l'émission de mai, l'avant-dernière, avant à la fin de cette saison déjà. Plus qu'après, il restera celle de juin. Et voilà, on espère que vous avez aimé cette émission et on vous retrouvera le mois prochain à Tokyo. Ça vous va?
Okinawa. Comment
on dit? Okinawa.
Arigato gozaimasu, Nishita.
Ouais, pas mal.
Ah, pas mal. Ou sinon, on peut dire
au revoir. lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.